Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Aujourd'hui, nous allons voir comment un corps d'élite de l'armée turque, les Janissaires, à l'avant-garde des combats, fut le fer de lance de la grande conquête qui permettra à l'Empire ottoman de s'installer sur tout le pourtour de la Méditerranée orientale et méridionale à partir du XVe siècle. Et comment, grâce à une arme secrète, ils avaient le pouvoir de sidérer l'ennemi, c'est-à-dire littéralement de l'immobiliser de stupeur. Cette arme secrète, cette arme mystique, c'est la musique, qui leur venait d'une confrérie religieuse fondée par un saint, la confrérie des Soufis. C'est parti pour un grand looping initiatique sur les routes de la musique.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Mercan Dede qui nous chantait Istanbul. Nous sommes en 1450 à 11 km d'Édimbourg. Lord Sinclair construit une chapelle qui va être un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et pourtant, dans la décennie qui va suivre, un événement majeur va secouer le monde occidental. Constantinople tombe sous le joug des Turcs.
Votre sainteté, les Byzantins appellent à l'aide. Les Ottomans ont encerclé Constantinople.
Devons-nous abandonner le dernier bastion de la chrétienté en terre d'Orient ?
Le 29 mai 1453, après un siège de 2 mois, Mehmet II entre dans Constantinople au son d'une armée de musiciens produisant des sons terrifiants. C'est une musique inouïe, au sens propre du terme, jamais entendue, aussi effrayante que majestueuse, qui à la fois glace le sang et force le respect, provoquant autant de crainte que d'admiration. Une cohorte de musiciens scande la marche des janissaires, avec d'énormes tambours, des gongs, des cymbales de fils de cuivre assemblés puis fondus selon un art ancestral ramené de Chine. La lenteur des mouvements, le bruit sourd des timbales donnent une majesté incomparable à la marche des conquérants. Tandis que des syncopes de cymbales, comme des éclairs de feu, déchirent la transe fascinée que subissent tous ceux qui assistent à ce spectacle. Car c'est un spectacle que de voir ces guerriers d'élite avancer tranquillement, que ce soit dans une parade ou dans la fureur d'une bataille, en contrepoint à la frénésie ambiante, dans un tempo calme, soutenant la marche inexorable de ceux que rien ne semble devoir arrêter. Le zurna, au corps évasé comme une trompette, avec une hanche de hautbois qu'il faut pincer très fort pour produire une pression qui rend le son aussi puissant que le barrissement d'éléphants qui auraient la célérité de chevaux légers. Le zurna sonne la charge. Cette musique est guerrière, mais elle est avant tout sacrée. Elle est la musique des janissaires, le corps d'élite de l'armée turque.
Attention, en avant, marche!
Avis à la population.
L'armée annonce sa venue dans un rythme guerrier.
Prêt, en avant, la fanfare.
On suit les janissaires au bruit qu'ils sèment.
C'est quoi les janissaires ? Les janissaires, ce sont des soldats élevés à la cour ottomane. Et dans le cadre de ces janissaires, il y a différentes sections ou des corporations. Et parmi ces corporations, il y en a une qu'on appelle les Mehter. Ces mehters sont là pour faire de la musique. Et ils font de la musique sur le champ de bataille, pour effrayer l'ennemi, mais aussi pour créer un état second dans l'esprit de leurs fantassins.
Ça tape, ça souffle, la musique est un bruit qui frappe au cœur des soldats.
Vous êtes prêts les soldats ? Mais ne jouez pas trop fort !
Lorsqu'on écoute cette musique, qui est une musique de plein air, une musique puissante, une musique effrayante, on ne peut pas imaginer autre chose que d'entrer dans un état second, et sans doute c'était fait uniquement pour faire avancer les soldats.
L'armée marche en rythme avec les tambours.
Ces musiciens étaient distribués en plusieurs sections où dominaient les tambours, car c'était les tambours qui montraient la majesté du sultan. Plus il y avait de tambours, plus on faisait du tapage, plus le sultan était honoré.
On va jouer pour toi.
La cacophonie s'accélère en l'honneur du sultan.
Et il jouait d'une façon étonnante, et ça faisait toujours un bruit d'enfer.
Vous êtes de fins musiciens.
Drôle de façon de clamer son amour. Ça ne serait pas plus agréable de réciter une sérénade ?
Les janissaires étaient des enfants chrétiens, enlevés à leur famille, et puis convertis et élevés pour former un corps d'élite. Les peuples turcs, originaires des steppes d'Asie centrale, sont d'excellents cavaliers, mais de moins bons fantassins. Aussi mettent-ils sur pied une armée composée exclusivement d'Européens. À partir du XIVe siècle, les Turcs prélèvent en pays conquis de jeunes enfants chrétiens âgés de 10 à 15 ans. Les deux principaux modes de recrutement étaient la capture à l'occasion de guerres ou de raids ou la réquisition selon le système du devşirme, ce qui veut dire cueillette en turc. Un fils sur 40 était accueillis. Les familles des 39 enfants non choisis devaient financer le voyage du 40e jusqu'à la capitale. Trop heureuses d'être épargnées, elles s'acquittaient avec bonheur de cette tâche. Les janissaires étaient donc issus de familles grecques, bulgares, serbes, russes, ukrainiennes, roumaines, albanaises, croates, hongroises, arméniennes ou géorgiennes. Ce recrutement permettait à l'Empire ottoman de renforcer son armée tout en affaiblissant ses sujets chrétiens potentiellement insoumis. Si la charia interdit la réduction en esclavage d'enfants et d'hommes musulmans, les esclaves chrétiens, capturés très jeunes, formés et islamisés, contournent le problème dogmatique pour les Turcs. Les janissaires ont donc le statut d'esclaves, mais paradoxalement, du fait qu'ils étaient destinés à former les troupes d'élite de l'armée ottomane, ils pouvaient également devenir les hauts fonctionnaires de l'Empire.
Toi à l'islam, et tu abjureras.
Vous m'en aurez beaucoup appris sur la religion.
Les janissaires, quitte à être convertis à l'islam, choisirent une de ses branches la plus mystique, le soufisme. Une des raisons était que les soufis étaient très tolérants envers les autres cultes. Ainsi, les janissaires, anciens chrétiens, se faisaient accepter plus facilement. Pour un soufi, toutes les religions et toutes les pratiques se valent parce que tout ramène à Dieu de toute façon. Un ordre soufi particulièrement fut très prisé par ces guerriers d'élite, les Bektashi, qui tiennent leur nom du fondateur de l'ordre, Hacı Bektaş Veli. Fondé au XIIIe siècle en Anatolie, le mouvement se diffusa fortement dans les grandes villes ottomanes, essentiellement vers les classes dirigeantes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Les Bektachi pensent que le Coran doit être lu à deux niveaux, de l'extérieur, Zahir, et de l'intérieur, Batin, ce qui laisse la place à une interprétation ésotérique des textes, cette fameuse lecture symbolique qui se détache de la forme du récit pour en étudier le fond, en remettant le raisonnement au centre du débat, en ayant en quelque sorte une lecture philosophique d'un texte religieux, en pratiquant une spiritualité axée sur la sagesse et sur un universalisme tendance à réunir les croyances plutôt qu'à diviser les peuples. De plus, les Bektachis sont un des rares rites musulmans duquel les femmes ne sont pas exclues et auquel chaque membre de la communauté peut être initié jusqu'à devenir un derviche, puis un baba, c'est-à-dire un maître spirituel.
Courir, manger, travailler, n'auriez-vous pas tout simplement oublié de respirer ?
Dans ce monde qui cavale, arrêtons-nous un instant.
Le soufisme, c'est une quête intérieur et une tentative donc de reproduire l'expérience, on peut dire essentielle, donc du prophète Mohammed. Bon, c'est le miraj, c'est son ascension vers Dieu, rentrer en soi-même ou tout simplement de remonter vers Dieu.
En descendant en nous, nous nous rapprochons du soleil.
Oh, mais ça crame les yeux.
La définition d'un maître spirituel, c'est je veux regarder le soleil en face et ça me brûle les yeux. Alors je mets une paire de lunettes qui va m'empêcher de me cramer le cerveau en allant percevoir une énergie trop haute pour moi, mais qui en même temps va poser une armure.
Nous enfilons donc les lunettes de soleil du maître spirituel, prêt à faire l'expérience du soufisme.
Le soufisme, c'est le choix donc, d'un certain nombre d'ascètes, on peut dire, de contemplatifs, donc, de chercher le sens secret du Coran. Le soufi va montrer qu'en fait, il faut comprendre les choses d'une manière différente.
Nous apprenons à lire dans les nuages et à voir au-delà des choses.
Le but, c'est le tawhid, c'est l'unité. C'est de se trouver en état d'unification autour de ce point intime, intérieur, de gommer tout ce qui est ambition, tout ce qui est habitude de pensée, routine sociale, conformisme, pour ramener l'être sur ce qui fait sa qualité d'être.
Mais ce n'est pas facile à réaliser. Nous nous perdons souvent dans les méandres de notre monde moderne. Ressaisissons-nous.
Lorsque votre cerveau est surmené, votre rythme cardiaque augmente et votre respiration s'accélère. En contrôlant votre respiration, vous inversez ce processus. Votre rythme cardiaque devient plus régulier et votre cerveau reçoit des signaux positifs.
Ouvrez donc vos chakras et emmagasinez les signaux positifs.
Au XVe siècle, les Turcs vont se servir de cet islam mystique, tolérant et ouvert, pour étendre leur influence en Europe. En atteste la présence à Budapest du tombeau de Gül Baba, derviche Bektachi. De plus, les Bektachis sont à l'origine de l'organisation des métiers du commerce et de l'artisanat au sein de l'Empire ottoman. Ils forment les apprentis en leur inculquant un certain nombre de valeurs humaines. La morale, le sens de la justice, la fraternité et la solidarité. En cela, ils sont très proches des confréries des métiers qui se développent au même moment en Europe. Confréries bâties sur le modèle des ouvriers écossais revenus des commanderies des Templiers en Terre Sainte. Tous sont irrigués à la même source. Et voilà comment un réseau de sagesse entre Orient et Occident est tissé depuis le haut Moyen-Âge au plus profond des sociétés qui, soi-disant, s'affrontent dans un choc de civilisation. Le seul choc dont on pourrait parler serait le choc des fanatiques de part et d'autre, de camps qui sont bien plus liés qu'il n'y paraît.
Thank you. for so long. How I wish for you today. Oh, 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 oh.
Sublime duo entre Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, et l'immense chanteur pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan, The Long Road.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Mais qui sont ces soufis, ces fils de la sagesse, du mystère, de la révélation? Ils sont mystiques, mais poètes. Ils sont sages, mais musiciens. Ils sont religieux, mais danseurs. Leur nom même est sujet à débat. Soufi vient-il de Sophia, le mot grec qui veut dire la sagesse, ou de l'arabe safa, qui signifie clarté, limpidité, ou alors de souf, un autre mot arabe qui signifie la laine, dont étaient vêtus les ascètes de Koufa, la ville d'Irak d'où ils viennent, la ville d'Ali, le gendre de Mahomet dont ils se réclament. Le soufisme est la voie de la sagesse qui va de l'écorce au noyau. Le soufisme tient compte des nombres et des proportions qui régissent les rapports entre les hommes et les éléments de la nature. Le soufisme tient donc des pythagoriciens. Autant dire qu'une fois de plus, nous retrouvons un mouvement sous influence égyptienne, puisque Pythagore a été initié en Égypte où il séjourna 20 ans et d'où il tira tout son enseignement. Vous me direz, qu'est-ce qui n'est pas sous influence égyptienne ? Mais le soufisme tient également des Perses, de la religion zoroastrienne en particulier. Religion monothéiste qui vit le jour en même temps que le monothéisme d'Akhenaton. Une bonne idée ne naît jamais seule. Nous voici donc dans une matrice à l'origine des grandes civilisations méditerranéennes, dans cette pile cosmique dont les deux pôles sont la vallée du Nil et les hauts plateaux persans. Zoroastre, appelé aussi Zarathoustra, est un sage né en Iran. On se dispute sa naissance entre le 15e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, carrément. Mais on connaît sa vie grâce à des hymnes rédigés dans une langue indo-iranienne archaïque, vieille d'environ 3000 ans, l'avestique. Cette langue et ses hymnes sont très proches des Védas, les textes de sagesse indienne. On retrouve ainsi cette matrice indo-iranienne empreinte d'une sagesse mêlant la raison et la mystique. Zarathoustra n'a jamais prétendu être un prophète, il s'est contenté de donner des directions de recherche spirituelle. Les Zoroastriens considèrent que leur dieu n'a besoin ni d'adoration, ni d'intermédiaire.
Une des réincarnations de Zarathoustra s'installe avec nous et nous raconte sa vie antérieure.
Au moment où le matin du temps répandit la lumière, le bienheureux Zarathoustra vint au monde. Il riait en quittant le sein de sa mère, et de son rire, le palais fut empli de lumière.
Mais le rire de Zarathoustra fut éteint par le feu de l'horreur humaine.
Il était écœuré par la domination des prêtres qui propageaient le culte de nombreux dieux et exploitaient les masses pour leurs bénéfices personnels.
Zarathoustra, la bonté incarnée, fuit les hommes et leurs maux pour aller méditer sur le dos d'une montagne.
Sur la montagne, il jouit de son esprit et de sa solitude. Mais un matin, son cœur se transforme. Levé avec l'aurore, il s'avança devant le soleil et lui parla ainsi.
Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais ceux que tu éclaires?
Après 30 ans de méditation, parti de chez lui pour se rendre en Bactriane, province iranienne, et propagea pour la première fois dans l'histoire de l'humanité l'unité de Dieu et la conception monothéiste de la religion.
Après 30 ans de méditation, Zarathoustra se réincarne encore une fois et prend cette fois-ci corps sous la plume de Nietzsche.
Ainsi parlait Zarathoustra.
J'aime celui dont l'âme est si pleine qu'il s'oublie en personne et que toutes choses sont en lui. J'aime tous ceux qui ressemblent à des gouttes lourdes qui tombent du sombre nuage suspendu au-dessus des hommes. Moi, lourde goutte qui tombe de la nue, je vous annonce le surhomme.
À bon entendeur, salut.
Ainsi parlait Zarathoustra.
Dans sa doctrine, chaque personne répond de ses actes en vertu de son karma, c'est-à-dire de l'empreinte de ses vies antérieures. Sa doctrine se résume en une maxime, Umata, Ukta, Uvarshta, ce qui signifie bonne pensée, bonne parole, bonne action. Pour Zarathoustra, l'évolution du monde est basée sur l'action et la réaction. Si les gens s'adonnent à la bonté, ils ne récolteront que la bonté. S'ils se livrent à la méchanceté, ils seront envahis par le mal. La bonté est comme une lumière qui vient du fond de soi, elle est inhérente à l'homme. Mais face à cette tendance qui le porte au bien, il en est une autre qui le porte au mal. Ce que propose Zarathoustra, c'est de toujours choisir le côté du bien, par une constante dialectique.
Au fond de lui, chaque homme détient un peu de cette lumière. Et cela ne leur suffit jamais.
Le côté lumineux combat sans cesse le côté obscur de la force. Chaque homme choisit. Et celui qui remplit sa responsabilité pleine et entière envers les autres est un vrai Jedi. Enfin, Zarathoustra l'appelle un Saoshiant. le groupe électro Blundetto et l'ensemble soufi de Bayeux. Le soufisme irrigué de cette sagesse trimillénaire indo-iranienne est donc né bien avant l'islam qui va le porter désormais. L'initiation soufie qui permet une renaissance spirituelle n'est pas sans rappeler le baptême chrétien ainsi que certains préceptes bouddhistes. Mais surtout, dans les techniques spirituelles du soufisme, la recherche de Dieu passe par la musique et la danse qui transcendent la pensée. Ainsi, chez les soufis, la voie ou le sentier conduisant de l'écorce vers le noyau par l'intermédiaire du rayon allant de la circonférence vers le centre passe par la musique, la poésie et la danse. Une figure humaine et une pratique magnifique qui perdure de nos jours en Turquie va incarner cette quête, c'est celle du derviche tourneur. En 1207, dans le Khorasan, au nord-est de l'Iran actuel, naît Jalal al-Din Muhammad Balkhi, plus connu sous le nom de Rumi. On l'appelle Rumi parce qu'il se fixe en Anatolie et que les Turcs appelaient l'Anatolie le sultanat de Rum ou le pays des Romains, l'Anatolie faisant partie de l'Empire romain d'Orient. Ce poète persan, Rumi, va professer une mystique centrée sur l'amour et la tolérance sans distinction de religion, de sexe ni de culture.
Lumière divine, pleine de particules dansantes. Et toi, grand, rond, grondant, nos âmes dansent avec toi. Sans pied, elles dansent.
Rumi écrit, et il faut se rappeler qu'on est au temps de Saint-Louis, qu'en coupant un atome, on y trouve un système solaire en miniature. 3 siècles avant Copernic, il affirme que non seulement la Terre tourne autour du Soleil, mais qu'il existe 9 planètes, découverte qui ne sera vérifiée qu'en 1930. Mais surtout, il est le porteur d'un message fondé sur une expérience vécue. Rumi vit dans une époque ravagée par les guerres, exilé de son pays natal par les invasions mongoles, réfugié en terre étrangère, veuf très jeune avec des enfants en bas âge. Rumi témoigne que la vie a un sens, que l'amour et la joie transcendent toute souffrance et qu'en définitive, rien n'est absurde.
Nous sommes les habitants du monde délicieux de la joie.
La parole de Rumi traverse les temps et se loge dans nos corps.
Parmi les grands mystiques, Jalal ed-Din el-Rumi occupe une place à part. Entre tous, il a choisi de s'avancer vers Dieu par la musique et par la danse. Il a pris ce chemin vers l'extase et c'est sur ce chemin qu'il a rencontré la poésie.
T'es devenu fou, mais qu'est-ce que t'as ?
Ce que j'ai, je vais te le dire ce que j'ai. Je suis poète, hein !
L'œuvre de Jalal ed-Din Rumi n'est pas seulement celle d'un éveilleur d'âme, ce n'est pas simplement celle d'un poète, mais c'est celle d'un maître spirituel.
Maître Rumi nous conduit dans sa danse.
Cet homme fut musique, non seulement le vers, mais tout le style de pensée et musicalité.
Ô brise du matin, souffle sur nos vies. Ô son de la flûte aux belles histoires, dans ton chant, il y a la douceur du sucre.
En plus d'associer les hommes dans les prières, Rumi rassemble toutes les forces de la nature.
Ô mon cœur, dis-je, quel bonheur d'entrer au cercle des amants, de voir ce que l'œil ne peut voir, de pénétrer dans les replis du sein. Mon cœur, parle la langue des oiseaux.
Rumi chante la langue des oiseaux pour nous permettre de rentrer dans le profond des éléments.
Tu es arrivé au donjon du cœur. Arrête-toi ici. Puisque tu as vu cette lune, arrête-toi ici. Tu as tant traîné tes hardes de tous côtés par ignorance. Arrête-toi ici.
On s'arrête, on regarde, on se tait.
La lecture de Rumi et le silence qui suit la lecture de Rumi vous donne cette impression d'avoir quelque chose de plus chaud, de plus vibrant en son être.
Merci Rumi.
Son enseignement fondé sur la connaissance, Rumi veut l'incarner dans la plus belle des formes. Car la beauté, dit-il, est médiatrice. Voilà pourquoi ce maître d'éveil va choisir la musique, la danse et la poésie comme véhicule de spiritualité. Selon la légende, il serait passé un jour devant un bazar où l'on battait de l'or. Pris d'une forte émotion, emporté par le rythme et le son cristallin de l'or battu, Rumi se serait mis à tourner dans un mouvement d'élévation. C'est par cette danse, le Sema, qu'il serait entré en communion avec le divin. Le tournoiement derviche est une forme de méditation active.
Poète, bel ami, clown cosmique maudit, cœur caché des musulmans, philosophe d'estime, dont la vie est musique, soufi, roi des comiques. Salam, 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 enivré par l'amour, simple comme bonjour, rare aristocratique, seigneur ésotérique, monarque pauvre et fou,
monarque pauvre et fou,
harlequin plein de poux. Salam, 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 vaporeux loup d'argent
et sauvage agneau blanc,
dans ton cœur font la paire,
que chassé de lumière,
de vérité sans blâme
et de beauté sans drame,
sans drame. Salam, salam, salam,
ton dos est rempli de pain,
ton œil jamais éteint.
Brigitte Fontaine et Grace Jones qui nous chantaient Soufi.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Les derviches visent à atteindre la source de toute perfection, ou Kemal, à travers l'abandon de leur ego ou de leur désir personnel, en écoutant la musique, en se concentrant sur Dieu et en imprimant le mouvement du corps dans les cercles répétitifs, ce qui est considéré comme une imitation symbolique des planètes dans le système solaire en orbite autour du Soleil. La musique provoque la transe, l'oubli de soi et l'abandon aux forces cosmiques. Elle conduit vers la plus haute forme de spiritualité. Les psalmodies des moines ou les cantilations du Coran provoquent le même état, une union mystique avec Dieu par la musique.
Nous assistons à une cérémonie de derviches tourneurs. Les derviches tournent et nous entraînent dans leur ronde.
Ils sont entrés, vêtus tout de blanc et d'une immense jupe plissée. Ils pivotent comme des toupies, plus ou moins rapidement, mais tous d'un même air concentré, sérieux. Et voilà partis dans le monde de l'exaltation. Comment les suivre dans ce grand jeu violent? C'est un élan. Vers quoi?
Zazie cherche la réponse.
J'avance, avance, à reculons.
Zazie ne trouve pas la réponse.
Je tourne en rond.
Alors, c'est un élan vers quoi?
Que les derviches dansent et tournent autour d'eux-mêmes, avec une main levée vers le ciel, avec la paume ouverte pour y recueillir la grâce, et l'autre main tournée vers la terre, c'est-à-dire qu'ils doivent redonner au monde cette grâce qu'ils ont reçue, mais qu'ils redonnent au monde une fois qu'elle a traversé leur cœur et qu'elle a été réchauffée par leur amour.
Les danseurs réunissent le ciel et la terre, et ils réunissent les hommes. Gigi Lionel, qui a écrit la danse des canards, est tout à fait d'accord. On pourrait revenir au derviche tourneur, s'il vous plaît? Et la cérémonie continue.
À la fin, plus de chant, rien qu'une musique rapide, moins haletante. Ils semblent des oiseaux qui ne battent plus des ailes, qui planent, tous en plein ciel. C'est l'extase. Dans l'extase, leur âme, leur idée, leur surnature se dégage et s'épanouit. Tout est douceur, harmonie, unité.
Yo,
c'est pas juste que t'as le tournis parce que t'as trop tourné en rond.
Lors des cérémonies, les derviches, vêtus d'une longue tunique blanche et d'une toque cylindrique en poil de chameau, pivotent sur la pointe des premiers orteils du pied gauche en traçant un cercle autour de la piste en plusieurs périodes de 10 à 30 minutes. La position de leurs mains est symbolique. La droite levée vers le ciel recueille la grâce divine que le derviche transmet à la terre par la main gauche tournée vers le sol. Les derviches tournent au son du ney, cette flûte à roseaux avec un bec de hautbois, et sur un fond de percussion, le daf, le tambour iranien, accompagné de chants religieux. Leurs rotations se font de plus en plus rapides jusqu'à ce qu'ils entrent dans un état de transe et d'extase mystique. La danse des derviches est donc une forme de prière menant à l'union suprême avec Dieu.
Thank you. ma tête. Lentement, le lac des splendeurs calmait le chasseur, m'énervait. Quelque chose brille, quelque chose passe. Lentement, je vais de ma tête.
André, comment créer une transe en musique ?
Par le principe de la répétition, on va créer une transe avec la technique qu'on appelle la technique du loop. C'est une technique moderne qui consiste à prendre une phrase rythmique et à la jouer en boucle en permanence. Et là, c'est le système des derviches tourneurs, c'est-à-dire que on va avoir un son qui tourne sans arrêt, en répétition. Et sur lequel on va construire par superposition d'autres phrases rythmiques solo. Alors j'étouffe le piano pour avoir ce son doud. Et c'est le principe de la répétition qui guide, qui va me donner ce tempo, qui va me donner cette rythmique qui va animer et qui va m'inspirer, qui est supposée nous inspirer. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de laisser de l'air. Alors j'utilise la gamme mélodique orientale avec la fameuse seconde diminuée. Cette gamme que va utiliser Ravel souvent aussi et qui, d'une certaine manière, réunit l'Orient et l'Occident, qu'on appelle aussi le mode arabo-andalou. Avec cette fameuse seconde diminuée et cette tierce majeure. D'une toute petite cellule rythmique et puis mon solo je vais le construire de la même manière en tâchant de commencer avec peu de notes, d'en appuyer ce mouvement de trois notes et puis de l'accélérer. Un solo c'est comme une danse d'un derviche. Il faut commencer lentement et puis aller crescendo jusqu'à ce qu'on essaye d'atteindre l'extase.
Assalamu alaikum. Salama. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salama.
Ainsi s'achève cette émission sur la transe et la mystique de la danse. Où sont David Federman. Elle était produite par Fanny Beauhuon, La Voix des Anges, Elsa Denac et à la programmation Muriel Pérez. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.